RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Le Sénégal se lance dans l'agro-business. Le pays, qui importe pourtant la quasi-totalité de ses produits alimentaires, favorise l'installation d'entrepreneurs étrangers qui se consacrent à la production agricole destinée essentiellement à l'exportation. Le Sénégal exporte ainsi du maïs, des haricots verts et des tomates vers l'Europe. Le pays est aussi convoité par de nombreuses entreprises désireuses de produire du biocarburant en plus de certains légumes. Ce phénomène s'est d'une manière générale accéléré depuis que l'Union européenne a émis une directive encourageante pour ses États membres à produire des énergies vertes pour réduire la dépendance au pétrole. Beaucoup de ces projets suscitent des tensions, des craintes et parfois même des conflits. Alors, pourquoi autant de réticences autour de tels projets ? Direction la vallée du fleuve Sénégal, c'est dans le nord du pays. Cette zone est très convoitée par des projets d'agrobusiness. Sénégal, l'agrobusiness, à quel prix ? Grand reportage signé Binta Diagne, Binta que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure.
Au milieu d'une plantation de tournesol, Doudou Ndiaïta observe la taille des tiges et l'allure de chaque fleur. Cet agronome inspecte quotidiennement ses champs afin de suivre le comportement de ses plantes, peu familières au Sénégal. La première campagne de tournesol menée en 2013 avait plutôt valeur de test. La société Sanuil Sénéthanol, propriétaire de ses champs, veut d'abord cerner les variétés qui sont adaptées au sol. Doudou Ndiaïta, le directeur des opérations agricoles de Sanuil Sénéthanol.
Nous avons ici donc 8 variétés. C'est des variétés donc qui sont venues d'Italie et des États-Unis, sur lesquelles nous voulons avoir beaucoup plus d'informations sur d'abord le taux de germination, sur la croissance, pour pouvoir dire donc qu'on peut opter pour telle ou telle autre variété. Nous avons emblavé donc en 2013 300 hectares de tournesol et qui vont normalement en 2014 être doublés voire triplés.
En mars 2012, la société Sanuil Sénéthanol acquiert par décret présidentiel 20 000 hectares de terre dans le nord du Sénégal. Cette entreprise envisage de produire 550 tonnes de graines de tournesol, 19 500 tonnes de patates douces et près de 3 000 mètres cubes de bioéthanol par jour destiné à l'Europe. Pour le moment, seuls 4 000 hectares ont été mis en valeur par cette compagnie contrôlée à 75% par des privés italiens. Sur les premiers périmètres emblavés, cette société diversifie ses productions. Un tracteur laboure des terres sur lesquelles on devrait prochainement cultiver du riz. Plus loin, une motopompe aspire de l'eau issue d'un canal construit en amont. Sur d'autres parcelles, des enrouleurs pouvant se déployer sur 400 mètres arrosent simultanément des plants de maïs. Pour atteindre des rendements élevés, Sanuil Sénéthanol entend investir dans les moyens logistiques. Doudou Ndiaïta, le directeur des opérations agricoles.
Pour aménager déjà 5000 hectares, c'est pas facile. Hein. Il faut bien entendu beaucoup d'engins. Nous avons surtout axé dans l'investissement sur la production. Nous avons une vingtaine de tracteurs donc, qui sont là dans ces opérations de préparation de sol. Nous avons près d'une centaine d'enrouleurs qui travaillent dans les champs et qui nous permettent donc d'arroser au moins 10 hectares chaque heure. Nous faisons également un épandage des engrais, soit manuellement, soit par avion, parce que comme c'est des superficies très importantes et qu'il faut optimiser et aller gagner du temps, nous devons aussi utiliser l'avion pour pouvoir faire des épandages très importants.
Au milieu de ces exploitations, une longue barrière de branches placée à même le sol marque une frontière. Derrière ces pare-feux, nous traversons de vastes champs de pastèques et non loin, des éleveurs enturbannés de foulards noirs emmènent plusieurs centaines de vaches paîtres. Parmi eux, Moussa Sauf et Grise Mine. D'après cet éleveur, depuis l'installation de Sanuil Sénéthanol dans la zone, le bétail a moins d'espace pour pâturer.
Jusqu'à très récemment, on n'a jamais rencontré de problème majeur. Mais depuis que le projet Sanuil Sénéthanol est là, tout a changé. Nos vaches et nos moutons n'ont plus de quoi se nourrir. Notre bétail meurt de faim. Auparavant, on pouvait traire en moyenne 25 litres de lait par jour. Et cela pouvait monter jusqu'à 30 litres par jour en période d'hivernage. Mais depuis que ce projet est là, on peine à traire 1 litre de lait par jour.
Alors comme tant d'autres éleveurs, Moussa Sow a dû modifier ses habitudes de consommation et remplacer le lait, aliment de base pour de nombreux plats locaux, par du riz.
Nous n'avons plus de lait, nous devons nous nourrir de riz, alors qu'auparavant, nous étions habitués à produire notre beurre, notre huile, notre lait caillé.
Au milieu d'un abri provisoire fabriqué avec des branches, de jeunes femmes munies de louches partagent du lait entre leurs enfants. Au-delà de l'aspect alimentaire, le lait a une valeur marchande considérable pour cette communauté d'éleveurs. Les recettes liées à la vente du lait permettent d'acheter des vêtements et de soigner la famille, comme l'explique cette jeune femme.
Un seau de 15 litres s'échange à 5000 francs CFA au marché. Ça me permet ensuite d'acheter des condiments, du riz et des habits. Le lait, c'est notre principale source de revenus.
Ici, les habitants ont une conception presque patrimoniale des terres et refusent de s'en détacher. Pas question, par exemple, de se déplacer ailleurs pour reprendre leurs activités depuis le début. Badialso, une jeune femme du village de Nietillon, nous dit toute la valeur que représentent ces parcelles de terre.
C'est impensable de quitter ces terres à cause de ce projet, parce que nous ne savons pas où aller. Nos arrière-grands-parents sont nés ici, c'est notre identité.
De son côté, l'entreprise Senwilsen Ethanol assure avoir pris des mesures strictes pour éviter d'éventuels conflits avec les habitants de la zone, comme l'explique Doudoun Diaïta, le directeur des opérations agricoles.
Nous avons d'abord défini une règle. On ne peut pas cultiver jusqu'à arriver à la porte des gens. Donc il y a sur un rayon de 500 mètres d'un village, on ne peut rien faire, c'est réservé aux animaux, au bétail du village. Bon, nous avons parfois de temps en temps des problèmes d'incursion, bon. Mais à chaque fois que ça arrive, bon, nous essayons tant bien que mal de trouver un arrangement pour d'abord faire sortir le bétail. Et puis, nous avons quand même mis en place un système, un dispositif de sécurité, et ça arrive maintenant de moins en moins.
Le manque de transparence et de communication autour de la gestion foncière sont très certainement à l'origine de nombreuses tensions dans la vallée du fleuve. Pour le cas de Senwil, le gouvernement a déclassé une forêt protégée afin d'attribuer des terres à une société privée. Une décision que Sidi Mohamed Sek, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ne cesse de remettre en question.
Pour quel intérêt de notre économie nationale, pour quel intérêt de des populations locales, l'État a-t-il déclassé ces terres et les a affectées à une entreprise privée étrangère? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison, mais je dis que les raisons ne sont pas rendues publiques, les gens n'en ont pas discuté et les gens n'en sont pas informés. Et si je ne m'abuse, je crois que tous les décrets relatifs à ce déclassement-là ne sont pas publiés ou ne sont pas dans le net. Donc c'est à la fois cette opacité et ce manque de communication qui soulève les questions de Senwilsen Ethanol dans le cas du Delta.
La communauté rurale de Nit, accoudée au lac de Guerre, cette localité endormie vit essentiellement de l'agriculture et se situe aussi au milieu du périmètre de Senwil. Ici, les villageois sont divisés. Il y a d'un côté des agriculteurs réticents et de l'autre, ceux attirés par les promesses de création d'emplois annoncées en grande pompe par les promoteurs étrangers. Un an après la première campagne de production, les espoirs suscités par ce projet se sont mués en sentiments de frustration et d'incompréhension. Ousseïn Ousek est membre de la communauté rurale.
Lorsque l'entreprise Senwil s'est installée, elle a promis de créer 8000 emplois. L'entreprise disait que les habitants de Nitch étaient prioritaires, c'est-à-dire que si elle avait besoin de mécaniciens, de chauffeurs, de techniciens agricoles ou autres, et qu'il y en avait déjà ici, elle devait les embaucher en priorité. Mais ça n'a pas été appliqué. À regarder de plus près, on se rend compte qu'à peine une vingtaine de personnes de la communauté rurale travaillent réellement dans ce projet. Et qu'aucune d'entre elles n'a de contrat. Ce sont simplement des journaliers qui peuvent être licenciés du jour au lendemain.
Or, dans le même temps, les paysans font face à un nouveau problème. Les espaces pastoraux étant réduits, cela crée des tensions entre éleveurs et agriculteurs. Cette situation inquiète Alassane Diop, qui dirige la commission domaniale de cette communauté rurale.
Dans notre communauté rurale, il y a déjà très peu d'espace. Les champs ne suffisent pas. Le peu d'espace libre est occupé par les populations. Nous cultivons peu. Nous ne parvenons pas à subvenir aux besoins de notre communauté. La situation s'est empirée depuis l'avènement du projet. Les paysans produisent moins, les éleveurs également. Il n'y a plus de frontières entre les champs agricoles et les espaces pastoraux. Comme le bétail n'a plus d'espace pour paître, il empiète sur les terres agricoles et vient perturber les producteurs. Cela crée de la tension entre éleveurs et agriculteurs.
Pour réagir à cette situation, le Conseil national de concertation des ruraux, principale organisation paysanne du pays, a lancé fin décembre une campagne de sensibilisation pour freiner cette ruée vers les terres agricoles. L'idée est aussi de mettre en valeur les exploitations familiales, car face à ces vastes projets agricoles, ces organisations de type traditionnel ne font pas le poids. Babacar Diop, l'administrateur du CNCR, plaide pour plus de financement en direction des agriculteurs.
Si on prend un exemple, la zone irriguée, pour aménager un hectare de terre, il faut beaucoup d'argent. Si ça s'agit d'aménagement tertiaire, c'est 6 millions à l'hectare. Et la moyenne pour aménager, c'est 4 millions. Alors maintenant, un producteur local n'est pas dans des dispositions pour financer un aménagement de 6 millions ou 5 millions. Il faut créer des dispositions de lignes de crédit adaptées qui peuvent permettre à ces producteurs d'accéder au crédit dans d'excellentes conditions et de pouvoir travailler et rembourser le crédit. Si on le fait, nous allons contribuer à la sécurité alimentaire de ce pays.
C'est surtout à partir des années 2000, avec l'avènement d'un régime libéral, que le Sénégal prend l'option de développer l'agrobusiness. L'idée est de mettre en valeur par des privés des terres jusque-là non exploitées. Sur la même lancée, le gouvernement de Macky Sall, élu en 2012, soutient une politique similaire à travers le PEDIDAS, le programme de développement durable et inclusif de l'agro-industrie. Ce vaste projet concerne la vallée du Ngalam et le lac de Guerre où l'on devrait favoriser l'horticulture. Jean-Philippe Tré est agroéconomiste à la Banque mondiale qui finance ce projet à hauteur de 86 millions de dollars.
Le principal objectif du projet, comme j'ai dit, c'était donc la promotion de l'investissement du secteur privé. Donc c'est d'améliorer en fait l'environnement d'investissement au niveau du secteur agricole. La zone qui a été sélectionnée donc, est celle de la vallée du fleuve Sénégal, en particulier la région de Saint-Louis et la région de Louga. Et le but, là, est de favoriser donc, l'accès à l'eau pour les opérateurs qui désireraient donc, s'installer dans les zones du projet. Nous avons également un appui en termes donc, de gestion foncière pour permettre aux communautés donc, l'identification des terres les plus appropriées pour le projet, les amener également à pouvoir donc, gérer les transactions avec les opérateurs externes aux communautés rurales.
Seulement dans le nord du Sénégal, les tensions sont encore vives et parler agrobusiness reste synonyme d'acquisition de terres. Joint par RFI, le ministère de l'Agriculture préfère d'ailleurs attendre les premiers pas de ce grand projet pour s'exprimer. Pour sa part, la Banque mondiale tient à rassurer les petits producteurs qu'elle entend accompagner financièrement. Jean-Philippe Tré, agroéconomiste à la Banque mondiale.
Par agribusiness, je pense qu'il faut d'abord entendre agriculture commerciale. Et le projet PEDIDAS ne compte pas simplement permettre l'accès ou promouvoir l'investissement d'opérateurs étrangers. Nous pensons que l'objectif, en fait, premier, est de permettre à tout le secteur privé de se développer. Quand on parle de secteur privé, on parle de petite exploitation de tout investisseur sénégalais, qui ne soit pas de la communauté rurale, mais qui soit de Dakar ou de Tambacounda ou de Ziguinchor. On parle également de toute grosse firme sénégalaise ou internationale.
Faire du business, mais pour qui et à quel prix? L'essentiel des produits cultivés à travers l'agrobusiness est destiné à l'exportation. En effet, entre 1991 et 2000, les produits horticoles exportés sont passés de 2500 à plus de 31 000 tonnes par an. Plusieurs voix militantes s'élèvent régulièrement pour dénoncer ce paradoxe, à l'image de Mariem So, la coordinatrice d'Enda Pronat.
Le système, c'est de demander à tous ceux qui ont des moyens de venir prendre les terres et avoir l'idée seulement de produire de l'argent tout de suite et maintenant. Oublier que cet environnement-là, il doit être protégé, il doit être entretenu, que nous devons développer un système de production durable pour les générations futures. Donc là, je me dis, est-ce que c'est pour notre réel développement ou bien est-ce que c'est le développement des autres? Parce que ces gens-là, ils viennent aussi avec des ambitions. Personne ne va mettre des milliards sur une agriculture et penser que c'est pour profiter les Sénégalais.
Mais le problème est beaucoup plus profond. Au Sénégal, la répartition foncière est régie par une loi datant de 1964. La plupart des terres occupées par les paysans relèvent du domaine public national. Les nombreuses tentatives de réforme pour adapter ce texte aux réalités du pays n'ont jusque-là pas abouti. Résultat, la répartition foncière s'effectue au gré des intérêts, soit des communautés rurales ou bien du gouvernement. Membre de l'IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale, Sidi Mohamed Seck préconise la mise en place d'une réforme foncière adaptée aux politiques agricoles.
La réforme foncière, pour moi, c'est un outil en amont de la réforme foncière ou d'une loi foncière, il faut une certaine vision du développement agricole. Or, depuis 1979, avec les programmes de redressement économique et financier, en passant par les programmes d'ajustement structurel, en 2004, la nouvelle politique agricole, donc tous ces programmes d'ajustement structurel ont fait que nous n'avons pratiquement plus de politique de développement agricole au niveau du Sénégal, qui s'inscrit dans une durée. On travaille par coup de projet de 3 ans, 4 ans, par coup de programme. Donc, une législation foncière à réformer, je suis tout à fait d'accord, mais une politique agricole à mettre en place.
Sénégal, l'agrobusiness, à quel prix ? Un reportage de Binta Diagne, réalisé par Marc Minatel.
Binta Diagne, bonjour.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Dans votre reportage que vous avez réalisé dans la vallée du Sénégal, donc dans le nord du pays, on sent bien les tensions qui existent autour du concept même d'agrobusiness. Quelle est de manière générale l'ampleur du phénomène au Sénégal ?
Au Sénégal, selon l'ONG Endapronat, près de 800 000 hectares, soit un tiers des surfaces cultivées, sont concernés par ce phénomène, essentiellement dans des zones fertiles. L'ancien président Abdoulaye Wade avait vivement encouragé le phénomène d'acquisition des terres par des privés, notamment vers les années 2008, en demandant aux communautés rurales de mettre à disposition 1 000 hectares de terres à divers projets de biocarburants. De manière générale, il y a énormément de projets qui évoluent dans l'ombre. On peut citer pêle-mêle un projet de biocarburant sur 5 000 hectares à Bohol qui a débuté en 2005. La société de boulonnerie Europe Sénégal qui produit aussi du biocarburant à Beudienne depuis 2008. Et on parlait à une certaine époque de 125 000 hectares de terres dans la vallée du fleuve Sénégal acquis par des privés saoudiens. Pour ce qui concerne le biocarburant et du coup la culture du jet trop face, ce qui inquiète le monde rural, c'est l'impact que cette culture a sur les sols. Il y a 3 ans, le CNCR, donc la principale organisation paysanne du pays, avait démontré que dans le département de Thiès et dans la région de Tambacounda, les productions vivrières avait chuté de 30 à 60% depuis que le jet trop face avait été introduit par des privés étrangers. Enfin, la dernière question qui semble faire débat, c'est le fait que la plupart de ces projets exportent leur production à l'étranger et pour la société civile, eh bien, ce phénomène risque d'amplifier la dépendance du Sénégal aux importations.
Alors Binta, ce phénomène touche une question sensible, c'est celle du foncier. On entend d'ailleurs dans ce reportage une jeune éleveuse de bétail qui dit que la terre est son identité et qu'elle ne tient absolument pas à s'installer ailleurs en dépit de la présence d'une entreprise. Est-ce que la réforme foncière entamée depuis quelques années prend en compte ces intérêts-là ?
C'est une question qui jusque-là n'a pas été tranchée. Il n'y a pour le moment pas eu de réforme foncière. On fonctionne donc toujours avec la loi de 1964 sur le domaine national. Et dans le même temps, il y a énormément de projets qui sont engagés dans certaines zones fertiles, notamment le PEDIDAS dont on parlait dans le reportage, donc ce programme financé par la Banque mondiale. Ce projet testera un modèle basé sur le bail sous location. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement modifiera le statut juridique des terres identifiées par les communautés rurales. Ces terres feront partie du domaine privé de l'État, qui les cédera ensuite sous forme de bail emphytéotique, donc de longue durée, à la communauté rurale, qui en dernière instance pourra à son tour sous-louer la terre aux investisseurs. C'est donc une manière d'impliquer un peu plus les communautés rurales dans le choix de la répartition des terres.
Et cette dernière question, qu'est-ce que les populations attendent de la réforme foncière ?
Eh bien, la préoccupation des gens, notamment dans le monde rural, c'est qu'elles ont peur de perdre leurs terres et cela dépasse donc la question de l'agrobusiness. Au fond, la loi de 1964 ne les sécurise pas, elle s'oppose à une vision très coutumière exprimée par les populations. Il faut savoir que quasiment toutes les terres font partie du domaine public national. Donc, les agriculteurs n'ont pour la plupart pas de titre foncier. Ils ont donc souvent du mal à convaincre les banques de préfinancer leurs investissements agricoles. Dans le même temps, la loi, elle, permet à l'État de se saisir des terres relevant du domaine national pour les déclarer d'utilité publique, par exemple pour faire des routes, des écoles, des terrains de foot. Et s'il n'y a pas de culture pérenne sur ces terres au moment où l'État les a déclarées d'utilité publique, eh bien les agriculteurs ne sont pas forcément dédommagés. Donc pour les populations, l'enjeu, c'est d'établir une meilleure gouvernance foncière et un droit à la propriété foncière.
Ce sera le mot de la fin. Binta Diagne, merci beaucoup. Bonne journée.